Radio Kapi.
Oh, Kapi. Patience Ngalula à la présentation.
Au sommaire de cette édition d'information, 5 personnes mortes, des maisons et d'autres biens des valeurs incendiés, bilan d'une incursion des rebelles des ZDF dans la nuit de jeudi à ce vendredi dans les territoires d'Irumu, en Ituri. Naufrage hier jeudi à Goma. La population de cette ville plaide pour la réouverture de l'axe routier Sake-Bweremana, coupé par les rebelles afin de limiter ce genre de drame. Notre invité est Didier Doutimo, rédacteur en chef de la radio Liberté Badolite. Il parle de la célébration du 25e anniversaire de cette radio privée. Bonjour. Avant d'aller plus loin, la francophonie est un lieu où nous pouvons ensemble porter une diplomatie qui défend la souveraineté, l'intégrité territoriale partout à travers la planète. Déclaration ce vendredi du président français à l'ouverture du 19e sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts en France, tout en citant plusieurs conflits armés à travers le monde, notamment entre l'Ukraine et la Russie ou encore au Moyen-Orient. Emmanuel Macron a appelé à l'ouverture de l'espace humanitaire ainsi que la protection des civils partout et tout le temps. L'agenda que porte la francophonie, a-t-il ajouté, est un agenda de paix et de développement durable. On écoute Emmanuel Macron dans cet extrait proposé par Alain Hirung.
Je crois profondément que la francophonie, oui, est un lieu où nous pouvons ensemble porter une diplomatie qui défend la souveraineté, l'intégrité territoriale partout à travers la planète, qui porte le même discours aux côtés de l'Ukraine, agressée aujourd'hui, menacée dans ses frontières et dans son intégrité territoriale par la guerre d'agression russe, mais qui défend une vision où il n'y a pas place au double standard, où toutes les vies se valent pour tous les conflits à travers le monde. Et nous tous croyons à la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Sommes convaincus qu'il ne pourra y avoir de paix au Proche-Orient sans solution à deux États. Nous tous, nous tenons aux côtés de nos frères arméniens pour le respect de leur souveraineté, de leur intégrité territoriale. Nous tous, nous tenons aux côtés du peuple ami libanais, aujourd'hui bousculé dans sa souveraineté et sa paix. Nous tous, nous tenons aux côtés aussi de la souveraineté de tous les peuples et de tous les États du Pacifique, qui doit être une région apaisée et où nulle puissance ne saurait remettre en cause cette paix par des provocations territoriales ou quelques reprises d'essais que ce soit.
Le président français a aussi félicité l'intervention de la RDC qui a contribué au vote le 22 septembre dernier de l'adoption du pacte de l'avenir. Notez que c'est après 33 ans que la France accueille cette grande rencontre de l'Organisation internationale de la francophonie autour du thème « Créer, innover, entreprendre en français ». En Ituri, 5 personnes sont mortes et des maisons et motos incendiées au cours d'une incursion des rebelles des ZDF dans la nuit de jeudi à vendredi à Haute-Mabère dans les territoires d'Irumu. Selon des activistes des droits humains dans la région, ces rebelles ont surpris les habitants dans leurs champs avant d'ouvrir le feu sur eux. Les victimes sont des retournés nouvellement installés dans cette entité. Martial Kizabiamungu.
C'est aux environs de 20h locales que ces hommes armés ont fait irruption au village Otumaber, précisément au quartier Mayalibo, où ils ont tiré plusieurs coups de feu pour intimider la population. Selon certains activistes des droits humains dans la région, 4 personnes, dont une femme, sont mortes sur le champ après avoir été touchées par balle. La cinquième, un bébé de 3 ans, a rendu l'âme ce matin dans une structure médicale de Bwanasura de suite de ses blessures. Tout en saluant l'intervention des FRD et des UPDF, l'armée ougandaise, Christophe Mouniadero, un activiste des droits humains dans la région, invite ces deux forces qui mènent des opérations conjointes des traques contre les ADF d'intensifier les patrouilles de combat pour mettre hors d'état de nuire ces rebelles. Ce vendredi matin, les activités commerciales sont restées paralysées à Haute-Mabère, même les écoles n'ont pas ouvert leurs portes. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
À Beni, dans le Nord Kivu, trois militaires de FARDC armés ont braqué une maison de transfert d'argent jeudi soir dans les quartiers Malépé. Selon des sources locales, ils auraient réussi à s'emparer d'une somme de 7 000 $ américains et des trois téléphones. L'intervention rapide des services de sécurité et la vigilance des jeunes du quartier ont permis de maîtriser ces malfrats. Guylaine Kassassia nous raconte le fait.
C'est puis après 19 heures locales que ces militaires armés ont fait irruption dans cette maison de transfert d'argent. Sur place, ils ont dérobé 7 000 $ américains ainsi que trois téléphones dont un utilisé pour les transferts d'argent. En quittant les lieux de leur forfait, ils ont tiré plusieurs coups de feu pour effrayer les habitants. D'après Jeannette Kavuo Vicky Kolaki, la chef du quartier Malépé, ces malfaiteurs appartiendraient à la 32e brigade basée à Maïmoya dans les territoires de Beni. Toujours selon la même source, c'est grave. Grâce à la réaction rapide des services de sécurité et à la vigilance des jeunes du quartier Malépé, que ces militaires ont été interceptés à Mambango, à environ 12 km du lieu du braquage, et où ils venaient de jeter dans les toilettes les mallettes qui contenaient l'argent volé. Furieux, des jeunes ont alors exigé la destruction des dites toilettes pour récupérer la mallette qui a finalement été remise aux autorités. Les trois militaires sont depuis lors en détention. Ils seront jugés à flagrance ce vendredi, conclut notre source. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Naufrage à Goma. Après les émotions, l'heure est aux réactions diverses sur ces drames qui a endeuillé des centaines de familles des Goma, Minova en territoire de Calais et environ. Quand bien même beaucoup de questions restent à élucider et des leçons à tirer de cet accident, la population lance un cri d'alarme au gouvernement national et provincial pour la réouverture de l'axe routier Sake-Bweremana, coupé par le rebelle afin d'épargner la population de ce genre de malheurs. Sifa Maguru revient ici sur certaines réactions.
Entre autres réactions, notons celle du chef de groupement Mufuni Changa en territoire de Masisi. Muharuro Wetemwami François a, dans un communiqué publié hier jeudi, plaidé pour la réouverture du tronçon Chacha occupé par le M23 depuis près d'une année. Il demande également au gouvernement d'assister les familles des victimes. Ce même cri d'alarme est exprimé ici par l'élu provincial de Masisi, Alexis Baunga.
Il demande au gouvernement de Nord Kivu, le général et major Peter Chirimwami, de pouvoir autoriser la réouverture du tronçon routier Sake-Bweremana-Minova pour permettre la circulation des personnes et de les biais sur ce tronçon.
Sur le plan économique, Emmanuela Vasikia déplore quant à elle que la seule route qui approvisionne la ville de Goma reste coupée.
C'est vraiment terrible. Les commerçants auront peur. Avec plusieurs naufrages comme ça, ils auront peur.
Pour sa part, Olivier Ndole, défenseur des droits de l'homme et environnemental, fustige également des irrégularités observées lors des embarcations et interpelle le gouvernement.
Les gens entrent et payent quand ils sont déjà dedans. Ce sont des bateaux très vétustes. Et même si le M23 serait sur la route là-bas, à qui appartient la responsabilité de chasser le M23 pour que les gens passent?
Goma Sifa Maguru, Radio Okapi.
Dans le même optique, la population de Calais au sud Kivu monte au créneau pour dénoncer les naufrages sur les lacs Kivu. Les derniers en date est celui de ce 3 octobre du bateau MV Merdi, vous le savez. La veille, une pirogue avait chaviré sur l'axe Moucheni, ayant causé la mort d'une femme et un homme disparu avec 15 rescapés. Pour cette population, l'une des solutions serait de réhabiliter la RN2 Bukavu-Goma en passant par Minova. Cela donnerait d'autres options à ces commerçants sans dépasser par la route. Rachel Kiesembangu nous en dit plus.
Depuis l'occupation de plusieurs entités dans le territoire de Masisi par la rébellion du M23, la route Minova-Goma est coupée. Pour des raisons sécuritaires, ce tronçon routier est évité par le commerçant qui emprunte alors le lac Kivu pour ravitailler la ville de Goma en vivres. Delphin Birimbi, président de la Société civile territoriale de Kalehe.
Face à cette situation devenue répétitive dans le territoire de Calais, nous avons demandé, nous demandons et nous continuerons à demander au gouvernement de construire la route nationale numéro 2 Bukavu-Goma, disponibiliser les 4 bateaux pour matérialiser la promesse du chef de l'État à sa population du territoire de Calais lors de la grande naïade qui avait encore coûté la vie à plus de 114 disparus sur les zones du lac Kivu.
Entre-temps, le ministre provincial de transport, voies de communication et désenclavement du Sud-Kivu a suspendu, par mesure d'ordre, le chef de poste lacustre de Minova après le naufrage. Suspension justifiée par la surcharge de passagers et des marchandises. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, l'approvisionnement en eau potable est un véritable casse-tête pour la plupart des riverains de la RN4, la route reliant la ville de Kisangani à l'Ituri au nord Kivu. Les populations effectuent des longues distances à la recherche de l'eau, des sources ou des rivières. Heureusement pour certaines grandes agglomérations, Tropembos RDC a trouvé un partenaire qui a mis en place des dispositions d'approvisionnement en eau potable grâce au forage. Quelle est la motivation des Tropembos à s'engager dans ce genre de démarches et comment les bénéficiaires réagissent-ils? Un reportage de Jacques Moukonkolé.
Au total, 8 forages ont été réalisés grâce au financement de Joint Fort Ota au village Bafouaboli, Basugo, Bapondi, Bafouaboula, Bafouamogo, Batama, Baego et Bafouapada. Satisfaction des bénéficiaires.
Nous sommes contentes. Il nous fallait des kilomètres pour avoir de l'eau. Même quand je reviens de mon champ, je peux puiser sans beaucoup de peine.
Tropenbos est une ONG spécialisée dans la protection des forêts. Comment peut-on expliquer son engagement dans l'approvisionnement des populations riveraines de la RN4 à l'eau potable? Pour son directeur pays, Alphonse Maindo, l'eau et la forêt sont intimement liées.
Si vous voulez que les gens puissent préserver les forêts et tout ça, il faut que les gens soient aussi en bonne santé. Parce que si les gens ne sont pas en bonne santé, ils vont faire quoi? Ils tombent malades, ils vont aller chercher à couper les arbres en désordre pour se faire soigner, etc. Donc il y aura des impacts pour ça. L'eau et la forêt sont très intimes.
Pour sa part, le chimiste Zoé Kazadi, professeur à la faculté des sciences de l'université de Kisangani, recommande tout de même que les analyses de cette eau soient effectuées trimestriellement ou semestriellement pour s'assurer de sa qualité et qu'en même temps elle soit chlorée. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Arsène Kassiama, point focal de la nouvelle société civile en territoire d'Idiofa dans la province du Kwilu et Tozaré. Il est détenu au parquet près du tribunal de paix depuis vendredi dernier. Cela après avoir dénoncé la détention irrégulière des enfants mineurs depuis plusieurs mois sans être jugé. Face à cette arrestation, les coordonnateurs nationaux de la nouvelle société civile parlent d'émusellement de la liberté d'expression. Jonas Tchombela annonce des démarches pour mettre fin à ce qu'il qualifie d'arrestation arbitraire et d'acharnement contre un activiste des droits de l'homme. Il a été joint par Irène Mbomaluzolo.
Nous sommes extrêmement préoccupés sur cet acharnement sur M. Arsène Kassiama à Idiofa par les autorités locales. Est-ce que c'est un crime le fait d'avoir annoncé la présence des mineurs dans la prison centrale d'Idiofa? Je suis actuellement en train de travailler activement pour rencontrer le ministre de la Justice pour poser ce cas de cette détention illégale et arbitraire de M. Arsène Kassiama. Trop, c'est trop. C'est vraiment un isolement de la liberté d'expression, c'est l'étouffement même de l'expression démocratique dans notre pays. Et qu'à Idiofa, il y a des hommes et des femmes qui veulent ternir l'image du chef de l'État. Je vais saisir les instances officielles pour cet acharnement et ce déni qui est de façon récurrente fait à ces militants des droits de l'homme. Et nous dénonçons cela avec la dernière mesure. Nous demandons à ceux qui le détiennent illégalement et de façon arbitraire de le libérer purement et simplement, sans atermoiement. Parce que le prendre pour l'intimider, nous considérons cela comme des menaces aux valeurs prônées par le chef de l'État, les valeurs de l'État de droit.
Rappelons qu'au mois de mai dernier, le même militant des droits de l'homme, Arsène Kassiama, a été aux arrêts pendant plusieurs jours. Il était accusé d'avoir tenu des propos discourtois envers une autorité locale, fait qu'il a rejeté fortement. Tenu hier jeudi et ce vendredi en Bandaka d'un atelier de renforcement de capacités techniques sur la lutte contre la corruption et les infractions assimilées en province de l'Équateur. Une initiative de l'ONG RCN Justice et Démocratie qui appuie la réforme de la justice en RDC. Une vingtaine de magistrats et juges de la ville prennent part à cet atelier. Il vise notamment la prise de conscience de magistrats sur les fléaux de la corruption et ses conséquences. Écoutez les facilitateurs principaux de l'atelier, le professeur Joseph Ngwabika, conseiller à l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption venu de Kinshasa. Il revient sur la motivation de l'opportunité de cette formation au micro de Paul-Richard Malengela.
Le code pénal a été modifié en 2005, intégrant en son sein l'infraction de corruption et de faits assimilés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les magistrats qui sont appelés à réprimer ces comportements-là, il n'y a pas seulement que l'infraction de corruption passive ou de corruption active, mais nous prenons des faits assimilés à la corruption tels que le détournement des données publiques ou privées, la concussion, les trafics d'influence, l'enrichissement illicite. C'est ça que nous voulons mettre à la portée des magistrats qui sont des acteurs majeurs dans cette mission de dire le droit et de lutter contre la corruption. Vous allez voir le Conseil supérieur de la magistrature en fait un cheval de bataille. Vous allez voir dans la formation initiale du premier lot des magistrats, il y avait ces modules de prévention et de lutte contre la corruption. Mais aussi, il y a des partenaires, les cas notamment du RCN, qui estiment que la corruption, c'est un grand fléau. Il faut sensibiliser les acteurs. Et ces premiers acteurs qui interviennent pour élever la nation, ce sont les magistrats.
Avec l'appui financier de l'Union européenne et du PARGE 2, les RCN Justice et Démocratie entend poursuivre la même activité avec les autres institutions judiciaires.
Actualité internationale.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni jeudi à New York pour faire le point sur la situation en Somalie. Lors de ce Conseil de sécurité, les thèmes abordés tournaient autour du processus institutionnel du pays, la lutte contre le terrorisme et les tensions régionales, ainsi que l'avenir de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie. L'ONU s'est engagée à soutenir la mission de paix dans ces pays d'Afrique de l'Est.
L'invité.
Nous recevons dans cette édition Didier Doutimo. Il est rédacteur en chef de la Radio Liberté Badolite et président du comité organisateur de festivités du 25e anniversaire de cette radio. En effet, la Radio Liberté, chaîne mère de Badolite, a soufflé le 1er octobre sur le 25 bougies de son existence. À Badolite, trois journées portes ouvertes ont été organisées et plusieurs autres manifestations ont eu lieu à la place de l'unité des Badolite mardi, jour de l'anniversaire. Didier Doutimo parle de cette commémoration. Il est interrogé par Paul-Richard Malengela.
Alors Didier Doutimo, bonjour.
Oui, bonjour Paul-Richard Malengela. Également bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Alors dites-nous, 25 ans après sa création par le MLC, alors mouvement politico-militaire, cette radio garde-t-elle encore ses objectifs ou son opportunité?
Bien, je vais ici commencer par rappeler que la radio Liberté fut installée le 1er octobre 1999 dans un contexte de guerre de libération par son promoteur jusqu'à la preuve du contraire, Jean-Pierre Bemba Gombo. Principalement, la radio a été installée pour véhiculer l'idéologie du mouvement de libération du Congo et en même temps mener à bon port sa propagande de manière à nuire aux intérêts de ses adversaires. Mais hélas, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc il y a la libéralisation des objectifs. Donc nous confirmons que la Radio Liberté, pour le moment, accorde la parole à tous les courants politiques, tendances confondies. Donc c'est une radio, elle prône l'ouverture, la tolérance, la liberté, ainsi que la vérité. Donc voilà un peu ça, M. Paul Docha Malengela.
Alors, en tant que média congolais, quel bilan faites-vous de 25 ans de parcours de votre radio?
Le bilan, il est élogé. Le bilan de la radio Liberté Station de Badolite, il est élogé. Elle a travaillé jour pour jour 25 ans, malgré tout ce qu'on peut connaître comme difficulté. Mais elle fait un effort de se présenter comme église au milieu du village. Et c'est une véritable pépinière pour les organes de presse qui existent en République démocratique du Congo et particulièrement dans la province du Nord-Ubangi. C'est dans ce sens-là que je confirme que le bilan de la Radio Liberté Station de Badolite, c'est un bilan élogé.
Effectivement, la Radio Liberté a servi aussi de pépinière à la radio Okapi.
Oui, c'est le cas de Jacques-Yves Molima, de Askin Zigbia Tayoro, aussi Franklin Moliba Sese, qui avait servi aussi au sein de cette radio, Daniel Tambizoni, et je crois Jolie Laure Mbali Voto est aussi passé par la radio Okapi.
Didier Doutumo, c'est quand même à féliciter 25 ans d'existence. Qu'est-ce qui fait la force de cette radio qui a même résisté pendant les moments sombres du parti ou de son initiateur, M. Jean-Pierre Bemba, alors que plusieurs médias politiques sombrent aussi avec leurs leaders?
Oui, la force de la radio Liberté ne réside rien qu'au niveau de la gestion, hein, la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources matérielles, la gestion financière aussi, pourquoi pas. Tout est canalisé aussi à travers les comités de gestion rigoureux. Et c'est ce qui fait avancer cette radio-là, même en absence de son promoteur, tout ce que nous connaissons, pendant les 10 années passées en prison. Donc nous avons, la radio Liberté n'a fait que pérenniser, encore renforcer la gestion que je qualifie ici de la gestion orthodoxe. Donc la gestion a été vraiment orthodoxe et continue à l'être d'ailleurs.
Voilà, enfin, une question de curiosité. Quelles sont les perspectives de la Rallye pour les années à venir?
Oui, en termes de perspectives, donc, le comité de gestion tient coûte que coûte à pérenniser cette radio-là, qu'elle vive à jamais. Et puis, arriver, elle compte, cette radio-là compte sur les soutiens de tout le monde. Sans distinction aucune, et surtout les auditeurs de différentes catégories de personnalités qui aiment cette radio-là. Donc, c'est tout ce que nous pouvons présenter en termes de perspective.
Ben voilà, il ne reste plus qu'à vous souhaiter joyeux anniversaire et merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est à moi de vous remercier, vraiment, merci beaucoup. Merci au nom du comité de gestion, au nom du personnel de la Radio Liberté. Nous remercions aussi tous les nombreux auditeurs de cette chaîne de radio Liberté basée à Gbadolité dans la province du Nord-Oubangui. Merci.
Et c'est la fin de cette session des nouvelles sur Radio Kapi. Polydor Basunga a assuré sa mise en onde. Alain Irung et Jacques-Yves Molima l'ont préparé. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. Merci de votre attention.